Bilan Stock Express.
Chronique bande dessinée.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord donc de Bulle en Stock Express, spécial bande dessinée avec beaucoup de choses à vous présenter. Je vais commencer tout de suite je ne me suis pas présenté, tiens cette fois-ci, Bulle en Stock, c'est votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux de société et avec les Bulles en Stock Express, vous allez avoir chaque émission un thème spécifique. Et puis, peut-être des émissions un peu plus courtes. Donc, c'est parti avec Criminal, les acharnés. C'est de Ed Brubaker au scénario, de Sean Phillips au dessin. Et c'est aux éditions Delcourt. Criminal, pour ceux qui suivent depuis longtemps maintenant Bulle en Stock, c'est une série de polars assez sombre, très glauque, dessinée donc par Sean Phillips et imaginée par Ed Brubaker. Et régulièrement, depuis la fin de la série, il y a des one-shots qui sortent avec des personnages emblématiques que l'on retrouve. Là, comme par exemple, on va retrouver Angie ou Jacob. Jacob, lui, c'est le héros de ce malchanceux, dirons-nous, de cette histoire. On est à Hollywood et Jacob, qui est un dessinateur de comics, doit travailler sur l'adaptation de sa série télé, en tout cas tirer une série télé qui est tirée de ses albums. Et là, ça va très mal se passer. C'est très mal se passer, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. C'est toujours très sombre, il ne faut pas obligatoirement avoir lu les autres criminels pour pouvoir s'investir et se concentrer sur un album. Évidemment, comme on a des personnages qu'on retrouve, le passé de ces personnages-là sont expliqués, mais ce n'est pas non plus un manque si vous ne l'avez pas lu, si vous ne connaissez pas. Parce que justement, Angie, qui cherche à se venger, par exemple, vous allez comprendre très vite pourquoi elle cherche à se venger et comment elle va pouvoir se venger. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est toujours très sombre dans les criminels. C'est toujours très bien dessiné pour justement ce côté noir, très noir, qui vraiment fonctionne à merveille. Et il faut savoir que il va y avoir une adaptation de Criminal qui est arrivée en série télé. Donc Ed Brubaker a créé donc cette série et donc il va falloir peut-être s'investir dans le côté aussi visuel audiovisuel pour pouvoir en plus accéder à Criminal complètement, mais c'est vraiment une série emblématique américaine qu'il ne faut absolument pas rater comme d'habitude. Je vous en raconte pas plus, juste plongez-vous dedans, vous allez tout de suite happer par ce côté travail dans le milieu hollywoodien qui paraît toujours fastueux plutôt et qui en fin de compte devient très glauque très rapidement. Ça s'appelle donc les acharnés, pardon, c'est la nouvelle mouture de Criminal aux éditions Delcourt. Toujours aux éditions Delcourt, pardon, Spawn 2025. C'est évidemment de Todd McFarlane, le créateur de la série Spawn, mais aussi scénarisé par Rory McConville et puis dessiné par un nouveau dessinateur qui s'appelle Brett Booth. Donc le Spawn tome 25 regroupe un nouvel arc, les 10 tomes qui sont parus aux États-Unis, je crois, enfin 10 tomes, 10 ou 12 volumes, vous savez, comme c'est des comics, c'est assez souple, c'est assez fin, donc du coup là c'est l'intégrale qui va être une sorte de charnière dans la série Spawn. Alors Spawn, j'ai suivi au départ, j'ai moins suivi après, donc là on est sur, pas tout à fait un reboot, mais une suite. Mais en même temps, il vaut mieux quand même connaître un petit peu l'histoire parce qu'on va se, il y a Spawn qui était un démon qui a refusé, enfin qui a tué d'abord Malebolgia, le démon qui régnait sur le 7e cercle des enfers, et donc c'est lui qui avait transformé Spawn du coup. Mais le trône était donc vacant et Spawn a refusé d'être le nouveau dirigeant. Et il a mis une sorcière qui s'appelle Nyx, qui l'a aidé à accéder au trône de l'enfer. Mais elle lui a joué un mauvais tour parce qu'elle l'a renvoyé sur Terre et lui en privant de ses pouvoirs. Et donc, il est devenu Al Simmons, donc le Spawn. Et du coup, si vous n'avez pas lu les autres tomes, est-ce que vous arriverez à recoller? Je ne sais pas trop, parce que du coup, il faut quand même peut-être s'imprégner un petit peu de l'univers de Spawn, l'univers qu'a créé Todd McFarlane, mais il y a énormément d'albums. Et en même temps, Delcourt a tout ressorti, donc vous pouvez peut-être vous dépêcher et réussir à récupérer l'ensemble des Spawns qui sont sortis, pour ensuite enchaîner sur Spawn 25, qui est donc une charnière entre un nouveau cycle qui va commencer avec d'un nouveau dessinateur aussi, donc Brett Booth, qui vraiment rend hommage à Todd McFarlane. On sent vraiment la patte de Todd McFarlane derrière, et donc vraiment il s'est bien adapté à son style graphique, et c'est toujours aussi sombre, évidemment Spawn, mais c'est toujours assez agréable à lire, même si justement les tenants et les aboutissants de chacun, comment sont arrivés les différents personnages, c'est pas toujours évident à suivre lorsqu'on est dans une suite classique. Comme je vous disais juste avant, dans Criminal, ce sont des one-shots, donc on n'a pas besoin de connaître obligatoirement les personnages. On rentre dans cet univers de polar. La Spawn, il faut quand même avoir un petit peu de connaissances. Après, ça peut vous plaire énormément. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Spawn 2025 est donc sorti aux éditions Delcourt, dans la collection Comics, évidemment. Et puis tant qu'à faire, on va continuer dans le comics avec The Crow. La nouvelle édition de The Crow de James Hobart aux éditions Delcourt, en format cette fois-ci qui n'est plus souple mais rigide. Vous connaissez tous, je pense, The Crow, Eric et Shelley, qui sont amoureux, qui sont sur le point de se marier, mais il y a un problème. À un moment donné, un gang de truands les agresse. Eric reçoit une balle mortelle et il a juste le temps d'assister au calvaire de sa compagne qui va se faire violer et atrocement mutiler. Et puis, après son décès, Eric revient pour venger Shelley en tant que fantôme, que The Crow, qui est une œuvre magistrale, qui est une œuvre vraiment très originale à l'époque, une œuvre forte, poignante, parce que ce qui est arrivé à Eric dans le livre, c'est ce qu'arrive à James Hobart en 1978. Sa fiancée meurt percutée par un conducteur ivre et du coup, il a ressorti tous les traumatismes qu'il avait pu avoir. Alors c'est un comics indépendant au départ, en noir et blanc, et petit à petit, qui a eu tellement de succès, qui a eu plein d'éditions différentes. Là, l'édition un peu ultime de The Crow donc sort chez Delcourt avec une superbe couverture. Comme d'habitude, la couverture est quasiment la même tout le temps, mais là, vu que c'est rigide, c'est vraiment très agréable à lire. Et donc The Crow, nouvelle édition, si vous n'avez jamais lu The Crow, vous allez vraiment trouver ça fort, dur par moments, et puis des fois très poétique aussi, parce qu'il y a un côté très poétique, très lyrique un petit peu dans cet univers. C'est pas évident à lire toujours, mais en tout cas c'est graphiquement une réussite, parce que James Hobart a évolué en plus dans son style graphique, vu que c'était des choses un petit peu lancées comme ça au fur et à mesure. C'est vraiment très très bien fait, et donc du coup Delcourt lui offre un bel écrin, dernier bel écrin entre guillemets, parce que du coup il y avait déjà eu, là c'est en grand format, et vraiment qui rend honneur à cette œuvre culte du comics, donc The Crow, qui a été adapté en film en plus. Donc The Crow aux éditions Delcourt, l'édition ultime. Et puis deux tomes d'Avatar sont sortis. Avatar, s'adapter ou mourir, de Corinna Beshko et Benny Lobel. Corinna Beshko au scénario, Benny Lobel au dessin. Là, il y a Avatar 3 qui va bientôt sortir au cinéma. C'est une préquelle au premier film de James Cameron cette fois-ci, lors de ce Avatar, s'adapter ou mourir. Donc là, on est avant l'arrivée du programme Avatar sur Pandora, et le docteur Grace Augustine qui réalise qu'il va falloir apaiser les tensions entre les deux peuples, va entamer des négociations pour ouvrir une école pour les enfants, donc afin de pouvoir comme ça faire une paix, faire durer une paix qui pour l'instant est difficile à avoir. Donc Avatar s'adapter ou mourir, on a vraiment plein d'histoires différentes qui sortent depuis quelques temps donc chez Delcourt. C'est jamais enfin, il y a dû y avoir l'adaptation des films, mais il y a aussi beaucoup d'histoires entre les films et d'histoires autour de cette planète Pandora et de ce peuple des Navi qui évidemment s'adapte très bien lorsque vous aimez cet univers. James Cameron a décidé d'en faire un univers multi-support pour pouvoir vraiment qu'on ait un gros univers. C'est un peu Star Wars hein, aussi qui avait fait la même chose. Entre les films, vous avez plein de comics qui racontent l'histoire d'un personnage ou deux personnages, souvent des one-shots. Et là, Avatar s'adapter ou mourir, là, lui arrive avant le premier tome, enfin le premier film plutôt. Et puis Avatar au cœur des ombres, c'est de Jeremy Barlow cette fois-ci au scénario, c'est de Josh Wood au dessin. Là, cette fois-ci, on est dans un récit de famille à l'intérieur donc de Pandora. On va retrouver Jake Sully, qui était le héros du premier Avatar, qui est devenu chef de la tribu des Navi. Mais avec leur arbre de vie détruit, il commence à douter de sa place parmi eux. Et puis ensuite, il va y avoir des querelles entre les Navi et les humains qui évidemment continuent, mais aussi des tensions entre les tribus qui commencent de Pandora, qui commencent à s'intensifier, et il y a des conflits familiaux de longue date qui petit à petit vont ressurgir et vont entraîner des traîtrises, des trahisons. En tout cas, voilà, toujours cet univers. Là, on est entre les deux premiers films, Avatar au cœur des ombres, et on va suivre donc encore des personnages que l'on connaît ou pas. Il y a des fois des personnages que l'on ne connaît pas, mais qui sont introduits par les comics. Les comics vont faire les liens entre les différents films. Les comics vont être adaptés à chaque fois, non pas des films, mais vont s'intégrer dans l'univers de Avatar. Et c'est ce que je trouve plutôt intéressant. Parce que faire comme ça tout un univers vraiment complet, et il y aura aussi, je pense qu'il y aura du jeu vidéo aussi qui va arriver, peut-être une série télé, mais je pense pas vu qu'il va y avoir déjà 7 films, si je me rappelle bien. En tout cas, si James Cameron a vu ça en grand lorsqu'il les a filmés, il va sortir tous les 2 ans, je crois, il va en sortir un, mais ils sont déjà filmés, donc du coup, on va avoir du Avatar régulièrement, et là, le troisième sort fin d'année 2025. Donc, Avatar 2, tome de Avatar en comics, c'est vraiment toujours bon, et chez Delcourt, à chaque fois, ils les sortent plutôt en français pour pouvoir compléter votre collection, et pour les Avatar fans, vous pourrez comme ça compléter vos histoires de Avatar grâce à ces comics. Et puis il y en a même un troisième que je voulais vous présenter qui est Avatar aux frontières de Pandora. C'est de Ray Fakes au donc scénario, du coup, illustré par Gabriel Guzman, toujours chez Delcourt, évidemment. Et là, cette fois-ci, justement, James Cameron présente des nouveaux personnages, des nouveaux clans. Et on va suivre l'origine d'un personnage de Avatar, Frontier of Pandora, le jeu vidéo. Justement, c'est ce que je vous disais, qui a été édité par Ubisoft. Donc là, on va le suivre Solek, qui est un jeune guerrier Navy, un des seuls survivants de son clan qui entreprend un voyage à travers Pandora. Donc du coup, il y a beaucoup de traumatismes, évidemment, après les batailles qui ont eu lieu. Mais du coup, il va essayer de rencontrer des nouveaux peuples, en tout cas des nouvelles familles de Navy. Et il va essayer donc d'intégrer peut-être une de ces familles. Mais ça ne va pas être si évident que ça. Donc Avatar aux frontières de Pandora aussi. Donc 3 tomes de Avatar si vous aimez cet univers créé par James Cameron et que vous allez sans doute adorer et voire apprécier de plus en plus. Et puis un vrai coup de cœur pour un one-shot là chez Glénat. Ça s'appelle Hélène de Windhorn. C'est de Tom King au scénario, Bill Keith Evely. Magnifique dessin, Et donc c'est un one shot chez Glénat, comme je vous le disais. On est dans un récit fantastique parce qu'on va suivre le destin, l'aventure de Hélène qui doit, après la mort de son père, une mort tragique, qui était lui un célèbre écrivain de Pulps. Donc Pulps, c'est donc des aventures, vous savez, qui paraissaient dans les journaux où il va y avoir à chaque fois une suite et une sorte de cliffhanger qui à la fin va arriver et puis on va attendre la suite au fur et à mesure. Donc on trouvait dans les journaux de la littérature populaire, mais très efficace la plupart du temps. Là, elle va devoir aller vivre dans l'immense propriété de son grand-père, Windhorn House. Elle est touchée par la disparition de son père, évidemment. Elle est un petit peu perdue, elle est dans ce nouveau monde qu'elle n'accepte pas trop au départ. Mais il va se passer pas mal de choses. Un soir, elle est à côté d'un bois, elle est attaquée avec sa gouvernante par une créature maléfique qui sort d'un roman de fantasy. En tout cas, c'est l'impression que l'on a, c'est une sorte de monstre qui aurait été tout droit inventé et sorti d'une imagination. Il y a son grand-père qui arrive avec une hache et arrive à les sauver. Mais du coup, ça n'a rien d'anodin parce que Hélène va se rendre compte qu'à l'extérieur des murs de cette demeure vivent des créatures légendaires. Et ces créatures légendaires, bizarrement, ressemblent beaucoup à celles que son père inventait pour ses récits. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Bah, c'est ce que vous allez découvrir dans ce très très bel album Hélène de Windhorn. Très très bel album parce que graphiquement, la dessinatrice Bilkis Evely a fait un boulot magnifique, rempli de détails et avec un côté un petit peu début du 20e siècle dans le graphisme. Petit côté art déco par moment, un côté vraiment très précis. C'est vraiment sublime. Les planches sont sublimes. La couverture est impressionnante de détails. Vraiment, on plonge dans un univers, dans le passé, très facilement. Et le dessin est magnifique. En plus, les couleurs sont un petit peu pastel, sont pas très flashy. Et ça donne une ambiance supplémentaire, je trouve. Moi, au récit, j'ai beaucoup apprécié cet album. Un très bon comics que je ne connaissais pas, que je découvrais et que je vous invite à découvrir parce que justement, l'univers fantastique est très intéressant, très bien mis en place et surtout est porté par un dessin absolument somptueux. Donc, Hélène de Windhorn à ne pas rater aux éditions Glénat. On continue avec Ghost Squadron, le tome 1 s'appelle L'Atoll Maudit. C'est de Patrice Buendia au scénario, Damien Andriot au dessin, et c'est aux éditions Zephyr. Alors ce premier tome est vraiment une mise en place. On va suivre dans les années 50 Fletcher Williams, qui est un ancien, un vétéran de l'armée, c'est un vétéran du pilotage. Et ça coule douce dans le Pacifique. Et le capitaine Arthur Moorhead, qui volait avec lui avant qu'il ne déserte, arrive à le retrouver. Donc il doit lui donner une mission secrète. En effet, il faut retrouver un industriel qui s'appelle Francis Foggs, qui a fait fortune avec l'armement qu'il vend au gouvernement américain. Et le milliardaire a disparu, il était en yacht juste dans le coin justement autour des atolls où se trouve... Donc dans le Pacifique, Fletcher Williams, et son yacht a complètement disparu, et donc il va falloir le retrouver. Mais lorsqu'il est en train de faire un petit peu l'enquête, parce qu'au départ, bon, il se dit pourquoi pas, il va se confronter à l'atoll maudit, en tout cas c'est comme ça qu'on nomme dans cette partie de la Nouvelle-Guinée l'endroit où a disparu le yacht. Il ne veut donc Fletcher n'accepte donc pas la mission, mais il va être contraint et forcé de le faire parce que du coup, comme je vous ai dit, il est déserteur et il se sent, voilà, s'il veut résider en paix, continuer à résider en paix dans son atoll donc paradisiaque, il va être obligé de faire ce qu'on lui demande. Alors, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose de très spécial dans cette zone où il va falloir vérifier ce qui se passe exactement. Et pour ça, il va devoir... un seul avion ne suffit pas. Il va falloir que plusieurs avions volent en escadrille pour pouvoir essayer de voir et comprendre ce qui se passe, pour essayer de découvrir le mystère qui se cache derrière cette disparition. Et donc, il va devoir mener la Ghost Squadron avec des pilotes du coin, plus ou moins anciens, plus ou moins doués. Et on va donc suivre dans ce premier épisode le démarrage vraiment de cette histoire. On attend la suite, parce que du coup, ça commence vraiment sur la fin, à la Ghost Squadron est mise en place. Maintenant, le fait d'avoir plusieurs sur une grosse partie de l'album, on va chercher un pilote, on le sent qu'il n'est pas bien, et en fin de compte, il est bien. Puis après, on refait pareil, et ainsi de suite. Bon, c'est plutôt agréable à suivre, mais voilà, il y a une petite répétition sur la mise en place de cette Ghost Squadron. Moi, j'attends surtout le deuxième tome pour pouvoir me dire, tiens, ça a l'air vraiment très bien. Alors évidemment, pour ceux qui sont passionnés d'aviation, ils vont découvrir différents avions, hydravions et ainsi de suite, qui ont peuplé toutes les guerres et ainsi de suite, parce que chaque pilote va venir d'un endroit différent, sont souvent des pilotes d'origine différente, donc évidemment avec leurs avions. Voilà, quand vous êtes passionné d'aviation, la collection Zephyr évidemment est une collection qui est faite pour vous. La Ghost Squadron, le tome 1, à voir. Moi, j'attends la suite vraiment pour me prononcer afin de me dire si j'apprécie beaucoup ou pas. Une série aussi qui est relancée avec Harry Dickson. Le tome 3 s'appelle Le Vampire aux yeux rouges. C'est de Doug Edline et Luana Vergari au scénario, Onofrio Cataccio au dessin, et c'est aux éditions Dupuis. Harry Dickson, c'est le pendant américain de Sherlock Holmes. Et là, donc, il va devoir assister, on l'appelle en Allemagne, pour pouvoir assister à l'exécution du vampire aux yeux rouges qui s'appelle Ebenezer Grump, un criminel sanguinaire qu'il a arrêté quelques mois plus tôt. Mais lorsque de son exécution, ce fameux Ebenezer Grump va supplier, tellement il est terrifié, va supplier Dickson de veiller à ce qu'il soit bel et bien guillotiné, parce qu'il a peur des représailles de celui un petit peu qui le dirige. Une menace effroyable apparemment. Et donc, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de lui? Est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un au-dessus de lui, ou est-ce que c'est une vision un petit peu folle qu'a eu ce condamné à mort? Et là, du coup, le Harry Dickson va suivre une nouvelle enquête. C'est toujours agréable de retrouver Harry Dickson. Après, j'ai eu un peu de mal des fois avec le dessin, un petit peu autostatique. Et je trouve que cet album, en plus, il est assez verbeux. Il y a beaucoup, beaucoup de textes, beaucoup de discussions, où il y a peut-être un peu manque d'action. En tout cas, je l'ai trouvé plus moyen que les deux premiers dans cette nouvelle série. Quand je dis nouvelle série, c'est-à-dire que c'est une relecture de Harry Dickson avec des nouveaux épisodes tirés de Jean Rey toujours, mais en tout cas vraiment remis en scène et remis en image aussi chez Dupuis. Donc Harry Dickson, tome 3, à vous de découvrir ce nouvel tome. Si vous avez aimé les deux premiers, vous pouvez tout à fait le lire, et vous me direz peut-être ce que vous en avez pensé. Moi, j'étais un petit peu plus déçu que d'habitude. En tout cas, ça c'est Harry Dickson, aux éditions Dupuis. Des filles normales, c'est un album, un one-shot de Manon Debay. C'est aux éditions Sarbacane, et c'est un excellent album, vraiment avec un dessin très coloré, tout en crayon de couleur, mais une délicatesse assez rare, une finesse assez rare, avec beaucoup d'émotions qui passent dans le dessin, et aussi tout ce qui est vraiment les regards qui vont jouer beaucoup, avec la terreur, toutes les émotions qui vont passer, que ce soit positives ou négatives. Parce qu'en effet, ces trois jeunes filles qui s'appellent Alice, Mae et Julia, qui ont 16 ans, elles passent leur été à essayer de voir un petit peu, de parler un petit peu des garçons, mais qu'elles ne trouvent pas obligatoirement très intéressants, Un petit peu, mais voilà. Donc elles vont au bord de la rivière. Elles sont en Normandie. Et elles vont donc gratter un peu de guitare. Elles se racontent un petit peu toutes leurs histoires. Et puis, elles vont découvrir que leur idole, la rockstar Isaac Dean, va prendre un petit peu une retraite, en tout cas va arrêter un petit peu sa carrière et va se réfugier dans sa villa d'enfance. Et cette villa d'enfance est juste à côté de chez elle. Donc elles vont aller au culot le rencontrer. Et puis, mais par contre, Isaac Dean, lui, même si c'est leur idole et leur star pour eux, lui, il est un petit peu très, très, très mal en point, très destroy. Il est vraiment, pas fréquentable, dirons-nous, surtout pour des jeunes de 16 ans. Mais pourtant, la plus jeune, Alice, une petite blonde très mignonne, va rester un petit peu avec lui et lui va en profiter malgré le fait qu'ils aient une quinzaine, entre 15 et 20 ans de différence entre eux. Et là, va se jouer une sorte de jalousie entre les filles et en même temps, Alice va... On la ressent, c'est pour ça que je vous disais que les regards, que tous les sentiments vont être exacerbés par le dessin. On la ressent pas obligatoirement très consentante. Elle est en même temps, elle aime bien qu'on puisse la convoiter et en même temps peut-être pas de cette façon. Lui, ce rocker, lui, il est vraiment, vraiment... un petit peu jusqu'au boutiste. Lui, il s'en fiche un petit peu de qui est en face de lui. Il jette un petit peu les gens comme il le souhaite, il les renvoie un petit peu comme il le souhaite. Et là, va se jouer donc beaucoup de choses entre ces trois jeunes filles qui vont ensuite grandir, qui vont se séparer un petit peu, qui vont se perdre de vue. Et on va voir un petit peu comment tout ça se passe. C'est vraiment très très bien écrit, c'est prenant, c'est superbement bien dessiné. La couverture est intrigante parce qu'on voit ce rocker avec sa guitare dans la rivière avec des nénuphars, on ne sait pas trop ce qui se passe, et en même temps, c'est vraiment tout, c'est pas lui le héros principal, ce sont vraiment les trois filles, à trois caractères complètement différents, trois visions de la vie aussi complètement différentes, et du coup, toutes les histoires de consentement, de domination masculine, de relations toxiques, tout ça va être mis en place dans cet excellent album donc de Manon Debay, que je vous conseille grandement, un gros coup de cœur de Bulle en Stock. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais peu importe, ça reste un très très bon album, et vous aurez donc la possibilité de le découvrir, je le pense. Ça s'appelle donc Des filles normales, aux éditions Sarbacane. Dans un autre univers graphique, Champignac, tome 4, Les années noires, c'est aux éditions Dupuis, c'est de Becca au scénario, David Etienne au dessin. Et donc, vous avez compris que c'était la jeunesse de Champignac, le fameux conte de Spirou et Fantasio. Donc, Pacôme, Egesip, Adélard, Ladislas, comte de Champignac. On est là cette fois-ci en 1943 à Princeton. Donc, il est chargé d'espionner ses confrères. En tout cas, c'est ce qu'il ne veut pas faire au départ, mais il est un petit peu contraint et forcé pour repérer les communistes et les dénoncer au FBI. Donc, ce n'est pas obligatoirement très réjouissant. Il est pris de remords. Il fait cette mission. Mais il voit que de nombreux professeurs et étudiants disparaissent du jour au lendemain de l'université. Et donc, il va alerter Edgar Hoover, le patron du FBI, qui décide donc du coup de l'envoyer au Nouveau-Mexique. Là où la crème des médecins, normalement en tout cas, et des physiciens, tente de mettre au point la bombe la plus puissante jamais imaginée. Donc vous avez compris que dans cette série de Champignac, il y a toujours un côté réel du passé qui est inséré, donc notre fameux héros du conte de Champignac. Et on se sert surtout de son côté scientifique pour pouvoir nous montrer et nous expliquer un petit peu les différentes machines qui ont pu servir lors de la Deuxième Guerre mondiale, comme la traductrice, celle qu'on avait vue il y a deux albums précédents, le premier en fin de compte, où on avait celle qui avait permis de décoder les messages allemands pour savoir quand est-ce qu'ils allaient débarquer, quand est-ce qu'ils allaient, où est-ce qu'ils allaient se placer s'il y avait un débarquement. Voilà, tout ça, c'était c'est très, très ancré dans une réalité historique. Et en même temps, on a toujours ce côté Champignac. Mais Champignac, lors de les aventures de Spirou et Fantasio, est très fantasque, très, presque fou, complètement délirant par moments, très drôle. Il oublie plein de choses, etc. Là, on n'a pas du tout le même personnage. On a un personnage qui a toujours, est toujours en proie au doute, qui en plus a perdu la femme qu'il aimait et dans d'atroces moments en plus. Et il est confronté à plein de réalités qui le met vraiment mal, parce qu'il a vraiment une conscience qui l'emporte. C'est très surprenant, parce que évidemment on s'attendait au départ de la série Champignac à avoir un peu ce côté fantasque du conte, et là on l'a pas du tout, et c'est pourtant excellent. C'est pourtant excellent parce que le personnage est beaucoup plus sombre, beaucoup plus réel aussi, du coup beaucoup plus humain. Et on se dit un petit peu, bah, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place ? C'est un petit peu ça. Et là, bah, vous avez bien compris que la bombe qu'ils sont en train de créer, c'est la bombe nucléaire. Et du coup, on a vraiment, vraiment ce côté, je suis au moment où tout se crée avec des scientifiques que l'on connaît, Einstein et ainsi de suite, qui vont donc évidemment le côtoyer, que lui va côtoyer. C'est excellemment mis en dessin par David Etienne, c'est sublime comme d'habitude, de finesse, de précision, avec plein de détails. C'est vraiment des albums excellents, mais c'est pas les albums de Champignac rigolo. On est vraiment sûr qu'il va faire des choses avec les champignons où on va devenir bleu et violet en les mangeant. Là, on est vraiment sur du sérieux, beaucoup plus sérieux en tout cas, mais très très bien écrit et superbement mis en dessin par David Etienne. Ça s'appelle donc Champignac, le tome 4 est sorti, Les années noires, vraiment un must à avoir si vous aimez les très bonnes séries donc, de BD. Et puis pour rigoler, complètement délirant, mais beaucoup plus adulte évidemment dans son format, Les chroniques de Saint-Roustan, le tome 1 s'appelle Lundi Gras. C'est par Pierre-Emmanuel Barré, Relhomme, Philippe Arsène, Loïc Chevalier, Étienne Leroux et Damien Geffroy. Et c'est aux éditions Delcourt. Alors, les chroniques de Saint-Roustan, il faut connaître. Ça ne va rien vous dire si vous n'écoutez pas une radio qui s'appelle Radio Nova. Et dans une émission qui s'appelle La Dernière, pendant la toute première saison de La Dernière, c'est tous les dimanches, il y a des chroniqueurs qui font une émission qui s'appelle La Dernière. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent jamais si c'est la dernière qu'ils vont faire vraiment ou pas. Parce que c'était les anciens animateurs des émissions satiriques qu'il y avait sur France Inter et qui ont été donc virés de France Inter. Et donc, à chaque fois, ils se disaient, ben voilà, on peut être virés. Donc, c'est pour ça qu'ils ont appelé leur émission La Dernière, parce que comme ça, ça porte bien son nom. Si vraiment ils sont virés de Radio Nova, ben, ce sera vraiment La Dernière. Donc de La Dernière. Et là, les chroniques de Saint-Roustan, c'était donc Pierre-Emmanuel Barré, qui lui a été un de ces humoristes qui a été donc comme ça viré de France Inter, qui est arrivé sur Radio Nova et qui a créé une chronique où il va dénoncer un petit peu tous les travers de ce qu'on a dans notre société, mais en créant un village fictif qui s'appelle Saint-Roustan, où il y a des. Donc il a inventé toute un historique, il a inventé le maire, il a inventé plein de choses, et puis du coup il y a eu des objets qui sont sortis, des t-shirts, et la bande dessinée vient de sortir. Alors c'est du délire complet, mais c'est très drôle. Donc si vous aimez l'humour absurde, si vous aimez l'humour un peu corrosif aussi, ben vous allez vraiment vous régaler avec ces chroniques de Saint-Roustan. Si vous connaissez évidemment Saint-Roustan grâce à l'émission, vous allez vraiment beaucoup plus l'apprécier. Moi, j'avais les références, du coup les références me font rire. Et quand on retrouve les personnages qui ont été caricaturés dans la chronique régulière de la première saison de Nova, de La Dernière, bah, vous allez pouvoir le retrouver de toute façon en podcast si vous voulez cette émission. Vous allez apprécier. Maintenant, si vous n'aimez pas l'humour de Pierre-Emmanuel Barré, si vous n'aimez pas l'humour absurde, et puis bah, après, vous avez vu les dessinateurs qu'il y a dedans. C'est donc Damien Geffroy, Relhomme. Voilà, donc on est sur des dessins très caricaturaux aussi, mais toujours très drôles, très fluide glacial un petit peu. Vraiment, c'est excellent. Moi, j'aime bien parce que du coup, c'est mon humour, c'est l'émission que je suis et que j'apprécie énormément les créateurs, que ce soit les dessinateurs ou le Pierre-Emmanuel Barré. Donc, j'apprécie beaucoup tout leur travail. Donc, évidemment, moi, c'est un album que j'ai beaucoup apprécié. C'est sans doute pas fait pour tout le monde. C'est un peu, ça fait un peu produit dérivé, mais en tout cas, moi, j'ai, en tant que produit dérivé, je me suis pas senti le côté, bah voilà, c'est juste pour faire un peu plus de pognon. C'est vraiment, j'ai retrouvé l'ambiance, j'ai retrouvé le côté très très rigolo et très 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 comment dire, très délirant des chroniques que fait Pierre-Emmanuel Barré dans cette émission de Radio Nova qui s'appelle La Dernière. Donc les chroniques de Saint-Roustan, pour ceux qui connaissent, ce sera un petit régal. Pour ceux qui ne connaissent pas, pourquoi pas découvrir par la BD et aller écouter les podcasts, comme je vous disais, de cette émission qui s'appelle La Dernière, présentée par Guillaume Meurice, entre autres Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré et Juliette Arnaud. Les chroniques de Saint-Roustan, donc aux éditions Delcourt. Je vais vous parler quand même de la sortie, à un petit moment maintenant, du métier le plus dangereux du monde. Le tome 3 s'appelle La Base Secrète. C'est de Olivier Bocquet au scénario, Fabio Lai au dessin. Et c'est chez Dupuis. Pourquoi je vais vous en parler? Parce que j'ai beaucoup apprécié les deux premiers tomes et que du coup ce troisième tome est sorti et que j'avais un petit peu oublié de vous le présenter. Mais je présente les albums que j'ai beaucoup appréciés. Du coup, ce sont deux jeunes gens qui s'appellent Ziad et Luna qui vivent dans un monde de super-héros et eux aussi veulent devenir super-héros. Et dans les premiers et deuxièmes tomes, on les voit séparés. Ziad va devenir super-héros, en tout cas va tenter de le devenir. Et dans le premier et dans le deuxième tome, en fin de compte, c'est Luna. Et en fin de compte, ils vont se rejoindre un petit peu dans la ligue des super-héros. Mais en fin de compte, ils n'y arrivent pas vraiment. Et dans le début de cet album, là, on va voir trois jeunes gens qui sont sur les toits et on voit qu'il y a Ziad, Luna et Billy qui, malheureusement, en voulant fuir des robots qui essayent de les pourchasser pour les tuer, va glisser et va se tuer. Alors, comment ils sont arrivés là exactement? On va remonter jusqu'aux funérailles du père de Luna et Ziad. Ils s'étaient jurés de ne plus tenter de devenir des super-héros. Et ça n'a pas tenu très longtemps parce que du coup, ils sont repartis de plus belle vers leurs aventures de super-héros. Ziad a reçu un cube noir envoyé par White Nose, la super-héroïne, que Ziad devait protéger après sa mort. Et puis dedans, il y a un rat mort. Et puis, en tout cas, ils vont comprendre que le rat va servir à aller dans le vivarium où se trouve un serpent. Et petit à petit, donc le serpent est dans le vivarium de l'appartement de White Nose. Les enfants décident d'y pénétrer. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, à suivre, vraiment, c'est excellent. C'est plein de dynamisme. Et c'est une revisite un petit peu du super-héros où on est mordu par une araignée, on devient super-héros, où on a beaucoup d'argent et donc du coup on se fabrique des gadgets. Là, on est plus sur quelque chose de basique, banal, et du coup l'humain a beaucoup de place dans cet univers là et en même temps beaucoup d'action, un trait très très cartoon qui fonctionne parfaitement de Fabio Lai. Et donc du coup une excellente série chez Dupuis. C'est pour ça que je voulais vous en parler et que je voulais surtout pas que vous ratiez ce meilleur le titre exact est un peu plus long que ce que j'allais dire, le métier le plus dangereux du monde. Voilà, tout à fait, tome 3 chez Dupuis. Un album qui était très 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 attendu, Brume, tome 4, La Nouvelle Sorcière. Jérôme Pélissier au scénario et aux couleurs, Karine Inder au dessin. C'est aux éditions Glénat et c'est un succès phénoménal. Donc le trois premiers tomes formaient une histoire où on découvrait cette petite fille, ce petit bout de fille qui était une sorcière et puis qui allait découvrir ses origines Et du coup, on va nous aussi les découvrir dans les trois premiers tomes. Et c'est toujours avec un grand, grand plaisir qu'on retrouve la sorcière, cette petite sorcière, très gentille à vrai dire, avec son cochon Hubert et son ami Hugo qui vivent des aventures. Alors les Hugo et Hubert, eux, ils sont un petit peu passifs, vraiment, mais ils suivent quand même leur copine et ils iront jusqu'au bout. Ça, on le sent. Brume, Hugo et Hubert s'ennuient un petit peu. Il pleut beaucoup dans le village, donc ils s'ennuient. Et elle voit à un moment donné une petite grenouille et puis elle se dit, tiens, je vais la transformer. Donc je vais me faire une petite potion express de détransformation express. Et du coup, elle va le faire. Elle pense que ça va être peut-être un prince charmant, elle ne sait pas trop. Et puis en fin de compte, poum, qu'est-ce qui apparaît ? C'est une sorcière, la terrible Drouk. Donc la sorcière est revenue de grenouille, non pas revenue des morts, mais revenue de grenouille, va s'emparer de sa baguette, la baguette de brume, et va plonger le village dans le chaos. Nos trois hérons vont être chassés et vont se retrouver dans une île lointaine, sauvage, mystérieuse. Donc il va falloir s'en sortir. S'en sortir, mais peut-être qu'il y a des petites chances parce que cette île apparemment a appartenu à des pirates. Bon, je vous en dis pas trop. Évidemment, vous avez compris qu'on partait encore à l'aventure avec ce départ tonitruant de ce nouvel album. Et puis, la suite qui nous entraîne dans plein d'aventures. Donc voilà, Brume, c'est une série excellente parce qu'on est surpris, parce que le dessin, le graphisme, les couleurs sont absolument magnifiques et du coup nous entraînent, que l'on soit jeune ou adulte, sans problème dans l'univers comme ça un peu onirique, un petit peu fantastique que nous créent les deux auteurs. Et puis en plus, en plus du graphisme absolument magnifique, le scénario tient vraiment la route à chaque fois. On est surpris. Je vous avais expliqué que moi, le final de la révélation de ce qui se passait dans le premier cycle m'avait tellement surpris que j'en avais été bouche bée un petit peu. Et puis là, on est reparti sur des très belles aventures. Tout peut arriver et en même temps, c'est super agréable, quoi. Nous, on est emportés, on se retrouve dans ce qui nous fait le plus vibrer, l'aventure. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on a envie d'y être, on a envie de le lire, on a envie de retrouver nos aventures de Brume, de Hubert et de Hugo. C'est ce que vous allez pouvoir faire dans le tome 4 qui est donc sorti aux éditions Glénat. Évidemment, gros coup de cœur de Bulle en Stock, fan de cette série, mais vraiment à un point que vous n'imaginez même pas. En plus, les auteurs sont très sympas. Je leur fais un bisou, justement. Allez, on suit avec À faire peur. Le tome 1 s'appelle Terreur au camping. C'est de Lilian et Ingrid Chabert au scénario, Paul Drouin au dessin. C'est aux éditions Soleil. Les auteurs donc des géants ou de Collège Apocalypse refont une nouvelle série qui s'appelle donc À faire peur, où on se retrouve dans une ville qui s'appelle Trouillansac, qui apparemment a des phénomènes terrifiants, des disparitions inexpliquées, des apparitions monstrueuses. Les habitants vivent donc dans le danger et dans la peur. On va retrouver nous Cory qui a 11 ans, qui est accro aux écrans. Et puis elle va rencontrer Timéo lors d'un week-end nature où elle n'a justement pas le droit au téléphone normalement. Et elle veut, plutôt que de profiter du séjour, jouer avec son téléphone. Elle épuise sa batterie. Et puis comme je vous ai dit, c'était donc dans quelque chose de nature. Donc elle doit normalement ne pas avoir de batterie, ne pas avoir de recharge, ce qu'il n'y a pas dans le camp. Et donc elle va décider de suivre de la route pour aller dans la nature, donc dans la forêt, le soir, pour pouvoir aller recharger son téléphone, pour pouvoir jouer. Les enfants, Cory, Timéo, vont partir donc à l'aventure, vont partir pour essayer de chercher du courant électrique. C'est pas mal de choses qui vont se passer. Évidemment, je ne vais pas trop vous en dire, il faut que ça vous laisse la surprise. C'est plutôt agréable à lire. C'est assez facile à lire. On a l'impression de voir un petit peu le même principe que dans Collège Apocalypse, par exemple. Mais voilà, ça reste pas déplaisant. Paul Drouin, toujours efficace au dessin, qui peuvent se ressembler un petit peu. On pourrait peut-être reprocher ça d'une série sur l'autre. Mais en même temps, c'est son style. Ce sont ses personnages. On retrouve des caractéristiques un petit peu dans les visages, par exemple. Mais en tout cas, ça reste vraiment très bien écrit, très bien dessiné, donc très bien découpé en particulier. Donc on arrive à vraiment se faire un petit peu peur, dans à faire peur, même si là, honnêtement, c'est moins emblématique que dans d'autres séries. À faire peur, donc le tome 1, à vous de découvrir chez aux éditions Soleil. Et dans d'autres, aux éditions Soleil aussi, sont sortis des albums que vous allez peut-être apprécier si vous aimez certains jeux vidéo. Alors le premier s'appelle Brawlers, le tome 1 s'appelle Les Combattants du Ring, c'est de Winslow et de Valeria Orlando. C'est donc tiré du jeu Brawl Stars, vous avez compris. Alors ils n'ont pas le droit de dire que c'est un jeu Brawl Stars, donc du coup on est dans l'univers un peu de Brawl Stars, un univers de combat tour par tour si je me rappelle bien, où on va avoir des personnages sur une arène qui vont devoir s'affronter. Et donc là les Brawlers, ce sont des combattants qui s'affrontent en équipe pour le plus grand plaisir de tous. Donc on va suivre Ringo, un jeune garçon passionné par ce sport qui veut devenir entraîneur de Brawlers. Il a son voisin qui s'appelle George, qui lui est une ancienne gloire du sport. Donc comme je vous disais, c'est une arène dans laquelle s'affrontent deux équipes. Et du coup, il a envie, Ringo, de devenir donc entraîneur et il va former une équipe. Il va se dire, tiens, il y a un tournoi qui arrive bientôt en ville, je vais créer mon équipe. Alors ben Ringo va s'improviser vraiment entraîneur, il va constituer une équipe avec l'aide de George, enfin pas tout à fait au départ. Mais bon, vous allez découvrir ça. Honnêtement, c'est super gentillet, c'est vraiment commercial. Là par contre, vraiment pour attirer les lecteurs fans de ce jeu vidéo Brawl Stars. Voilà, Brawlers, voilà, c'est, je l'ai lu, mais c'est pas non plus un grande BD. Voilà, ça se lit pour ceux qui apprécient cet univers-là, mais je pense qu'il faudrait mieux justement aller vers À faire peur, Brume et ainsi de suite pour vraiment leur faire découvrir de la BD vraiment mieux faite et peut-être mieux construite que aussi celle qui arrive, qui s'appelle Roblox City. Évidemment, là, ça s'appelle Le Maître du Code, le tome 1, c'est par Benji et Ornella Greco. Et ce sont pareil, c'est chez Soleil. Aussi jeunesse, c'est autour de Roblox, vous savez, le phénomène à succès sur téléphone, sur ordinateur, sur tablette, des mini-jeux pas très bien faits la plupart du temps, où les jeunes se retrouvent, et puis bah, il y a aussi un côté chat derrière, côté discussion, avec pas mal d'adultes qui vont chercher aussi un petit peu ce qu'ils cherchent des fois auprès des jeunes, donc c'est un petit peu glauque des fois cette atmosphère-là. Bon, là, on suit donc à Roblox City, une ville virtuelle où des millions de joueurs interagissent, est devenu un centre névralgique, un multivers d'aventures et de jeux et d'entertainment. Voilà, tout le monde s'amuse à Roblox City. Et du coup, il y a un maître du code qui a infiltré les systèmes de Roblox pour prendre le contrôle des actions des joueurs à travers des lignes de code malveillantes et des virus informatiques. Et on va avoir deux héros. Robbie, un livreur de pizza maladroit, et Clara, une influenceuse charismatique, surtout plutôt caractérielle que charismatique en plus, qui vont tout faire pour stopper les plans diaboliques de ce maître du code. Bah c'est très banal, il y a des petites choses marrantes, le dessin est assez drôle, mais honnêtement, ça c'est pas vraiment une bonne bande dessinée. Comme on pourrait l'entendre, le scénario est fait pour moi un petit peu à la va-vite. Je suis désolé pour le scénariste, mais en tout cas, j'ai pas apprécié Roblox City ni Brawlers, qui sont vraiment des BD assez commerciales, trop commerciales en tout cas pour être vraiment bien au-dessus de la BD jeunesse que l'on voudrait avoir en tout cas. On va passer sur autre chose, comme Sid Cooper par exemple, le tome 1. C'est de Pendragon et c'est aux éditions Glénat. Et là, justement, on a une BD assez délirante aussi, avec un style graphique un peu à l'américaine. Et puis même la couverture fait très américaine, justement, mais complètement déjantée dans le dessin. Donc les personnages, on a l'impression qu'ils sont souples dans tous les sens. C'est assez fou comme graphisme, mais très particulier aussi, avec des personnages qui ont des nez pointus. C'est assez fou, donc ce sera un diptyque qui vraiment est à découvrir. En tout cas, moi, le premier tome m'a surpris graphiquement et scénaristiquement. Bah, tient la route. Donc, du coup, bon, je vais vous expliquer ce que c'est, évidemment. Sid, son destin vient de basculer parce que là, il y a la mort de sa mère. Et donc, il va devoir débarquer à Berry Hill, une étrange école qui se situe dans un vieux château qui est vraiment un petit peu le pensionnat où il ne voudrait pas aller. Quand il arrive, tout a déjà démarré. Les gens se connaissent un petit peu, mais par contre, c'est glauque. Les douches sont glacées. Enfin, tout va mal. Et puis en plus, on vit dans un univers où il y a le fléau. Le fléau, ce sont des plantes monstrueuses, sorte de grosses ronces. Ça fait 50 ans que ça existe. Et on est en Frangleterre qui subit ce fléau avec ces ronces qui petit à petit prennent le pas sur le reste de la végétation et donc défigurent complètement le pays. Et du coup, Sid arrive. Il va quand même arriver à se faire des nouveaux camarades. Malcolm, par exemple, un musicien au bras mécanique. Lula, la commère intarissable, fan de poésie. Et Kate, une fille punk, un peu bagarreuse et qui surtout a un franc-parler. Et puis, on va suivre donc dans cet univers-là, dans le pensionnat, donc déjà les aventures dans le pensionnat. Et en plus, on va suivre un Julian Strokes, un présentateur TV, qui tente de sauver sa carrière. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de découvrir les origines du fléau. Est-ce que ce serait peut-être pas dans le château, justement, le fameux château où est arrivé Sid et où il vit maintenant avec ses nouveaux amis, qui est arrivé tout ce fléau? C'est voilà, très original dans le graphisme, comme je vous disais. C'est un peu perturbant même au départ, parce que du coup, on se dit, il y a certaines cases qui partent un petit peu en vrille. Et en fin de compte, quand on est dans l'univers, on est vraiment happé. Et c'est plutôt vraiment très bon. On est un peu entre Scott Pilgrim, Harry Potter, des références un petit peu comme ça, parce qu'il y a un côté magique, évidemment, un côté fantastique qui n'est pas à renier. Donc voilà, ça c'est un album très, très particulier, mais très agréable et très original. Donc du coup, comme je vous disais, sort de l'eau, Sid Cooper, le tome 1, qui est paru aux éditions Glénat de Pendragon, le dessinateur ou la dessinatrice donc de cette série qui sera un diptyque. C'est un auteur. Et puis pour finir, un petit truc que je n'ai pas l'habitude de vous présenter, c'est des livres pour enfants. Mais vraiment enfant, là, c'est pas vraiment de la bande dessinée parce que c'est des livres illustrés. Donc, ça s'appelle Crocotte. C'est de Giovanni Colaneri et c'est aux éditions des Arènes. Crocotte pleure et Crocotte dit non. Donc, vous avez compris que c'était pour les tout petits. Ce sont des livres assez épais, donc avec chaque page est assez épaisse. Et du coup, sont en plus arrondis pour pas faire mal. Et il y a souvent un grand dessin et puis une émotion, donc là, Crocotte pleure, il est triste ou alors il est enrhumé, etc. Donc c'est un petit crocodile, tout mignon, et qui va vraiment vivre des petites aventures, mais c'est surtout pour dire, voilà, quand tu es en colère, tu peux dire non, tu peux, voilà, mais il y a plusieurs façons de le faire. Donc des livres avec peu de texte, une histoire, il y a un petit jeu en plus, des thématiques autour de l'apprentissage des émotions, un texte tout en majuscules qui facilite la lecture pour ceux qui commencent les accédants à la lecture, des illustrations vives qui sont vraiment vraiment remarquables. Donc c'est très mignon, c'est deux petits livres pour l'instant qui sont sortis que vous allez pouvoir donc découvrir aux éditions des Arènes. Ce n'est pas de la bande dessinée, mais voilà, je voulais vous les présenter. Moi, je sais que mon petit-fils qui a 2 ans ennemi adore Crocotte, donc il les lit tout seul, donc voilà, il connaît pas lire, il sait pas lire, mais en tout cas pour l'instant il lit les petites histoires, il apprécie très beaucoup Crocotte. Voilà, c'est comme ça que va se finir donc ce Bulle en Stock spécial BD. On va essayer d'en faire d'autres très rapidement. Merci d'avoir écouté, merci à Bulle. Vous pouvez retrouver les épisodes de Bulle en Stock sur Facebook, par exemple, sur notre Facebook qui s'appelle Bulle en Stock avec un S à Bulle, et puis aussi sur radiograndparis.fr. Merci à Nicolas pour son aide toujours égal depuis des années. Et puis, ben, on se retrouve très vite, je l'espère, que ce soit pour du manga, de la bande dessinée ou du jeu vidéo, du jeu de société, pardon. Allez, c'était Steven au micro et on se dit à très très vite. Bilan Stock Express.